La question de la taxation progressive des émissions carbone. Venons-en maintenant à la question de la taxe carbone. De façon générale, ainsi que nous l'avons déjà évoqué, le réchauffement climatique constitue, avec la montée des inégalités, le principal défi auquel fait face la planète en ce début du XXIe siècle. Plusieurs facteurs conduisent à penser que ces deux enjeux sont intimement liés et qu'ils ne pourront être résolus que si on les traite de concert. Cela tient tout d'abord au fait que les émissions carbone sont fortement concentrées au sein d'un petit groupe d'émetteurs constitué principalement de personnes à haut revenu et à haut patrimoine dans les pays les plus riches du monde, particulièrement aux États-Unis. Par ailleurs, l'ampleur des transformations des modes de vie rendues nécessaires pour faire face au changement climatique est telle que leur acceptation sociale et politique doit nécessairement passer par la construction de normes de justice exigeantes et vérifiable. Concrètement, on voit mal comment les catégories modestes et moyennes des pays riches, comme des pays émergents, seraient disposées à faire des efforts importants si elles ont le sentiment que les catégories supérieures continuent paisiblement de les regarder du haut de leur niveau de vie et de leurs émissions. Les mesures de réduction des inégalités évoquées précédemment, et en particulier la forte augmentation de la progressivité fiscale sur les hauts revenus et patrimoines, apparaissent par conséquent comme une condition nécessaire pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour autant, il ne s'agit pas d'une condition suffisante. Parmi les autres outils le plus souvent évoqués, figure notamment la taxation des émissions carbone. Plusieurs précautions doivent toutefois être prises pour qu'une telle solution soit viable. Tout d'abord, la taxe carbone ne peut pas être vue comme la solution unique. Bien souvent, la façon la plus efficace pour réduire les émissions passe par des normes, des interdictions et des règles strictes concernant les véhicules de transport, le chauffage, l'isolation des logements, etc. Bien davantage que par le fait de mettre un prix plus élevé sur le carbone. Ensuite, la condition absolue pour qu'une taxe carbone soit acceptée et joue pleinement son rôle est de consacrer la totalité de ses recettes à la compensation des ménages modestes et moyens les plus durement touchés par les hausses de taxes et au financement de la transition énergétique. La façon de faire la plus naturelle serait d'intégrer la taxe carbone dans le système d'impôt progressif sur le revenu, comme cela a été fait sur le tableau 17.1. Autrement dit, à chaque augmentation de taxe carbone, on calculerait l'impact moyen sur les différents niveaux de revenus en fonction des structures moyennes de dépenses, et on ajusterait automatiquement le barème de l'impôt progressif sur le revenu et du système de transfert et de revenus de base afin de neutraliser l'effet. On conserverait ainsi le signal prix, c'est-à-dire le fait que les consommations plus carbonées coûteraient plus cher que celles moins carbonées, de façon à inciter à un changement des modes de consommation, mais sans grever le pouvoir d'achat total des plus modestes. À l'inverse, la méthode utilisée en France en 2017-2018, consistant à utiliser les hausses de taxes carbone pesant sur les plus modestes pour financer les baisses d'impôts sur la fortune et sur les revenus des plus riches, ce qui a conduit à la crise des gilets jaunes et au blocage de l'ensemble du système français de taxes carbone, constitue la stratégie à éviter absolument. Enfin, il est légitime de se demander s'il ne faudrait pas envisager la mise en place d'une taxation progressive des émissions carbone. À ce jour, les formes de taxes carbone utilisées ont été essentiellement proportionnelles. Autrement dit, on vise à imposer toutes les émissions au même taux, qu'il s'agisse de celles de personnes émettant 5 ou 10 tonnes de carbone, équivalent CO2 par an, c'est-à-dire à proximité de la moyenne mondiale ou de celle de personnes émettant 100 ou 150 tonnes par an, ce qui correspond au 1% des individus émettant le plus haut niveau mondial. Le problème d'un tel système est que les plus gros émetteurs, pour peu qu'ils en aient les moyens, peuvent se retrouver à ne rien changer à leur mode de vie hautement carboné, ce qui n'est pas forcément la meilleure façon de bâtir une norme de justice acceptable par le plus grand nombre. La réduction d'ensemble des inégalités socio-économiques par l'impôt progressif sur le revenu et la propriété atténuerait ces disparités et contribuerait à les rendre davantage acceptables, mais il n'est pas certain que ce soit suffisant. Une solution parfois évoquée est celle de la carte carbone, consistant à distribuer un quota égal pour tous d'émissions annuelles, par exemple 5 ou 10 tonnes, tout en permettant à chacun de vendre tout ou partie de son quota. De cette façon, les plus pauvres ou les moins polluants verraient immédiatement l'intérêt financier de permettre aux plus riches ou aux plus polluants d'émettre davantage. Cela revient cependant à admettre de nouveau un droit de polluer sans limite pour les personnes disposant de moyens financiers suffisants. Par ailleurs, sur la base des marchés de droits à polluer déjà expérimentés pour les entreprises, tout laisse à penser qu'un tel marché étendu aux particuliers risque fort d'être volatile et manipulable à l'extrême, avec à la clé des vagues spéculatives et des acteurs réalisant d'énormes profits aux dépens d'autres, et un signal prix particulièrement bruité. Une meilleure solution pourrait être une véritable taxation progressive des émissions carbone au niveau des consommateurs individuels. Par exemple, les 5 premières tonnes d'émissions individuelles pourraient être pas ou peu taxées, puis les 10 suivantes pourraient l'être davantage et ainsi de suite, éventuellement jusqu'à un niveau d'émission maximale au-delà duquel toute émission serait interdite sous peine de sanctions dissuasives, par exemple au travers d'une taxation confiscatoire du revenu ou du patrimoine. Ce barème est donné à titre illustratif et peut constituer un point de départ compte tenu du fait que la moyenne des émissions mondiales est actuellement autour de 5-6 tonnes par habitant. Il devrait toutefois être rapidement renforcé si l'on souhaite tenir l'objectif de limitation de hausse des températures à 1,5-2 degrés Celsius, qui exige, d'après les estimations disponibles, de réduire les émissions à environ 1-2 tonnes par habitant d'ici à la fin du siècle. De même qu'avec la carte carbone, cette solution suppose que l'on puisse mesurer les émissions au niveau individuel. Cela soulève des enjeux complexes qui pourraient néanmoins être surmontés, par exemple au moyen des informations contenues dans les cartes de paiement individuelles, si l'on décidait qu'il s'agit d'un enjeu central pour l'avenir de la planète. Par ailleurs, cela est d'ores et déjà réalisable pour certaines consommations, par exemple pour les factures d'électricité. Il serait également possible, dans un premier temps, d'approximer une taxe carbone progressive en imposant à des taux plus élevés les biens et services généralement associés à des émissions individuelles plus élevées, par exemple le kérosène utilisé dans le transport aérien, ou mieux encore les billets d'avion en classe affaires. Ce qui est certain, c'est que le développement d'une politique climatique durable passera par la définition de nouvelles normes de justice environnementale et fiscale acceptables par le plus grand nombre, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. De la construction d'une norme de justice éducative. Venons-en maintenant à la question de la justice éducative. Il s'agit d'un enjeu central pour de multiples raisons. De façon générale, l'émancipation par l'éducation et la diffusion du savoir doit être au cœur de tout projet de société juste, et en particulier du socialisme participatif. Historiquement, ce sont d'ailleurs les progrès de l'éducation qui ont permis le développement économique et le progrès humain, et non pas la sacralisation de l'inégalité et de la propriété. Nous avons également vu dans les chapitres précédents comment l'expansion éducative et le développement de l'enseignement supérieur s'étaient accompagnés d'un retournement complet des clivages politiques. Dans les années 1950-1980, les partis démocrates, travaillistes, socialistes et sociodémocrates réalisaient leur meilleur score parmi les électeurs les moins diplômés. La situation s'est graduellement inversée et ces mêmes mouvements politiques se sont mis à obtenir dans les années 1990-2020 leur plus haut score parmi les plus diplômés. Pour résumer, les forces politiques qui formaient dans l'après-guerre le Parti des travailleurs sont progressivement devenus le parti des diplômés à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. L'explication la plus naturelle est que les électeurs les moins diplômés ont eu le sentiment d'être abandonnés par ces partis, dont l'attention et les priorités se seraient de plus en plus tournées vers les gagnants du système éducatif et, dans une certaine mesure, les gagnants de la mondialisation. Cette transformation politico-idéologique revêt une importance cruciale pour notre enquête. En particulier, elle constitue un élément important permettant de mieux comprendre l'effondrement du système gauche-droite de l'après-guerre et la montée des inégalités depuis les années 1980-1990. Nous avons déjà longuement insisté sur les très fortes inégalités en termes de probabilité d'accès à l'enseignement supérieur aux États-Unis, qui sont étroitement reliées au percentile de revenu parental, ainsi que la stratification extrême du système éducatif entre les meilleures universités et les autres. Si le Parti démocrate souhaite reconquérir l'électorat populaire, il lui faudra sans doute apporter des preuves tangibles du fait qu'il se soucie davantage des enfants issus des catégories modestes et moyennes et de l'amélioration de leurs conditions de formation, et un peu moins des enfants de ceux qui sont eux-mêmes issus des écoles et des universités les plus élitistes. Nous avons en outre noté que l'inégalité éducative et l'hypocrisie des discours méritocratiques concernaient également, suivant des modalités différentes, les pays régis par un système principalement public et prétendument égalitaire comme la France. Afin de préciser ce point, j'ai représenté sur le graphique 17.1 la répartition de l'investissement éducatif public actuellement en application en France. Si l'on examine l'ensemble des jeunes adultes atteignant 20 ans en 2018, on peut estimer sur la base des dernières enquêtes et tendances disponibles que l'investissement éducatif public total dont ils auront bénéficié au cours de l'ensemble de leur scolarité, de la maternelle au supérieur, se situera en moyenne à environ 120 000 euros, ce qui correspond approximativement à 15 années de scolarité pour un coût moyen de 8 000 euros par an. Il s'agit là d'une situation moyenne avec en pratique d'énormes disparités liées notamment à l'âge de fin de scolarité et au type de filière suivie dans le secondaire et surtout dans le supérieur. Au sein de cette génération, les 10% des élèves ayant bénéficié de l'investissement public le plus faible auront reçu environ 65 000, 70 000 euros chacun, alors que les 10% ayant bénéficié de l'investissement public le plus important auront reçu entre 200 000 euros et 300 000 euros chacun. Le premier groupe est constitué de personnes ayant quitté le système scolaire dès 16 ans, âge de la scolarité obligatoire, et ayant réalisé une scolarité longue d'à peine 10 années pour un coût moyen de 6 000, 7 000 euros par année. À l'inverse, le second groupe comprend des personnes effectuant des études supérieures longues, parfois au-delà de l'âge de 25 ans, et des scolarités complètes de plus de 20 années. Outre la longueur des études supérieures, l'autre élément important, déterminant l'inégalité de la dépense éducative, est le passage par les filières sélectives du supérieur, et en particulier par les classes préparatoires aux grandes écoles, où les étudiants bénéficient d'un taux d'encadrement beaucoup plus élevé que dans les filières universitaires non sélectives. Selon les données officielles, la scolarité en classe préparatoire revient à 15 000, 16 000 euros par an, contre environ 9 000, 10 000 euros à l'université. On notera par ailleurs une baisse d'environ 10% de l'investissement réel par étudiant du supérieur entre 2008 et 2018, parce que les budgets publics n'ont pas suivi l'évolution du nombre d'étudiants. Au final, les écarts sont très substantiels. L'inégalité de dépenses publiques reçues entre les différents groupes d'élèves peut atteindre 150 000 euros si l'on compare le décile le plus haut et le décile le plus bas, voire plus de 200 000 euros si l'on compare le centile supérieur et le décile le plus bas, soit l'équivalent du patrimoine moyen par adulte en France actuellement. C'est un peu comme si certains enfants recevaient un héritage supplémentaire par rapport à d'autres, étant entendu que l'héritage est lui-même réparti de façon très inégalitaire. Par ailleurs, même si ceux qui font les études les plus courtes ne sont pas systématiquement les personnes ayant les origines familiales les plus défavorisées, et ceux qui font les études les plus longues ne sont pas toujours issus des milieux les plus favorisés, il existe naturellement une corrélation positive et significative entre les deux dimensions, si bien que, dans de nombreux cas, les effets de l'investissement éducatif public et de l'héritage privé se cumulent. Soulignons enfin que les hypothèses réalisées pour faire ces estimations nous conduisent probablement à sous-estimer de façon importante l'ampleur réelle de ces écarts. En particulier, les estimations officielles sur le coût des filières sélectives et non sélectives que nous avons utilisées ici sous-estiment sans doute fortement l'écart réel. Essayons maintenant de voir suivant quels principes on pourrait tenter de définir une répartition juste de l'investissement éducatif. Précisons de nouveau que, de la même façon que pour la propriété juste et l'impôt juste, il ne s'agit évidemment pas de fournir une solution close, ce dont je serais bien incapable, mais simplement de proposer des pistes pour la délibération collective. Tout d'abord, il paraît clair qu'il faudrait également prendre en compte l'investissement éducatif privé, ce qui conduirait à accroître l'inégalité de la dépense éducative. L'effet resterait limité dans un pays comme la France, où le système éducatif est principalement public. Mais il aurait une importance massive aux États-Unis, où l'investissement par étudiant peut atteindre des niveaux extrêmement élevés pour ceux qui ont accès aux universités privées les plus coûteuses et les plus riches, sans rapport avec les moyens dont disposent les étudiants des universités publiques et autres community colleges. En ce qui concerne la répartition de l'investissement éducatif public observé dans un pays comme la France, une norme de justice relativement naturelle consisterait à faire en sorte que tous les enfants aient droit à la même dépense d'éducation qui pourrait être utilisée dans le cadre de la formation initiale ou continue. Autrement dit, une personne quittant l'école à 16 ans ou 18 ans et qui n'aurait donc utilisé qu'une dépense éducative de 70 000 euros ou 100 000 euros lors de sa formation initiale, à l'image des 40% d'une génération bénéficiant de la dépense la plus faible, pourrait ensuite utiliser dans le cours de sa vie un capital éducation d'une valeur de 100 000 ou 150 000 euros, afin de se hisser au niveau des 10% ayant bénéficié de la dépense la plus forte en formation initiale. Ce capital pourrait ainsi permettre de reprendre une formation à 25 ans ou 35 ans, ou tout au long de la vie. Dans l'absolu, on pourrait aussi imaginer que ces personnes puissent, sous certaines conditions, bénéficier d'une partie de cette somme comme capital monétaire, qui viendrait alors s'ajouter à la dotation universelle en capital. Il me semble cependant préférable d'utiliser ces moyens pour améliorer les opportunités d'éducation ouvertes à tous, et en particulier aux jeunes issus de classes sociales défavorisées. Outre la possibilité donnée de reprendre des études, qui dans de nombreux cas resteraient sans doute théoriques, il faut aussi et surtout réaliser les investissements nécessaires dans l'enseignement primaire et secondaire, permettant réellement l'émancipation par l'éducation lors de la période de formation initiale. Pourtant, il existe en ce domaine une immense hypocrisie. En France, comme dans de nombreux pays, des dispositifs dits d'éducation prioritaire sont supposés permettre d'orienter les ressources éducatives vers les quartiers, écoles, collèges et lycées socialement défavorisés. En réalité, comme nous l'avons déjà noté, ce sont au contraire les établissements socialement les plus favorisés qui bénéficient en pratique des enseignants les plus expérimentés, les plus formés et les mieux rémunérés, et cet effet l'emporte nettement sur les maigres primes allouées aux enseignants débutants ou contractuels officiant dans les zones défavorisées. S'il existait une réelle augmentation des moyens en faveur des établissements primaires et secondaires les plus défavorisés, alors le premier effet serait de faire remonter les niveaux d'investissement éducatif les plus bas indiqués sur le graphique 17.1 et de rendre ainsi la répartition de la dépense éducative plus égalitaire et plus juste.